Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 23 avril 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Aucun pays étranger n'osera jamais s'approcher des eaux territoriales de l'Iran, a martelé le commandant-chef de la marine iranienne. L'Iran, le Hezbollah, la résistance irakienne, Ansar Allah, tout l'axe de la résistance a partagé sa solidarité avec les Hazaras afghans qui ont été la cible du pire carnage de cette dernière décennie, signé Daesh, USA et Grande-Bretagne. Et le Parlement nigérien a autorisé la présence des forces étrangères au Niger. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le commandant-chef de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré que la flotte navale du pays navigue dans les eaux libres du monde sans aucun problème. Ajoutant qu'aujourd'hui, en raison d'événements économiques, le nord de l'océan Indien était devenu une voie navigable principale pour relier les continents. Si nous n'y avons pas une présence efficace, des gouvernements illégitimes viendront dans la région et s'approcheront de nos eaux territoriales. Cependant, grâce à l'autorité et à la présence de notre flotte en eau libre et à une surveillance constante, nous n'avons aucun problème et aucun pays n'ose s'approcher de nos eaux, a ponctué le contre-amiral Irani rappelant. La frontière maritime de l'Iran est de plus de 5000 km, dont 3000 km sont directement liés aux eaux libres, d'où la mobilisation de la diplomatie iranienne dans le domaine de la défense et de la marine. L'équation des forces et les discussions géopolitiques dans le monde ont changé et plusieurs acteurs sont à l'œuvre, a déclaré le commandant en chef de la marine iranienne. Quant au tenu de nos capacités, nous pouvons avoir une présence efficace dans tous les environnements maritimes du monde chaque fois que le commandant en chef des forces armées iraniennes nous ordonne. Soulignant que la présence des flottes navales d'autres pays dans la région n'est pas justifiée, le contre-amiral Irani a déclaré « Nous avons des intérêts et des ressources considérables dans le domaine maritime et partout où nous nous sentons menacés, notre flotte sera là ». Concernant la présence d'Israël dans la région et ses relations avec certains pays voisins, le contre-amiral Irani a déclaré que le régime maléfique d'Israël n'a pas de place même dans l'arène internationale. Ce régime n'est en fait qu'un tentacule du diable. Nous devons pourtant rester vigilants quant au grand Satan qui représente une menace pour les peuples de la région, voire toute l'humanité. Aujourd'hui, nous escortons nos navires partout dans toutes les zones maritimes du monde pour en assurer la sécurité. Et à ce titre, nous ne connaissons aucune restriction. Notre présence offre la sécurité à la région et au monde, a déclaré le commandant en chef de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani. L'Iran, le Hezbollah, la résistance irakienne, Ansarallah, tout l'axe de la résistance a partagé sa solidarité avec les Hazaras afghans qui ont été la cible pendant 72 heures du pire carnage de cette dernière décennie, signé Daesh et donc USA et Grande-Bretagne. L'ambassadeur adjoint d'Iran à Kaboul, Saïd Hassan Mortazavi, a rencontré vendredi 22 avril les blessés et les familles des fidèles afghans récemment tués en martyr dans les attentats terroristes de Kaboul. Elle leur a transmis le message de condoléances et de sympathie du leader de la révolution islamique. Il a également annoncé que l'Iran était prêt à aider les blessés de ces incidents et à les transférer à Téhéran pour y être soignés. Ce vendredi 22 avril, des sources d'information ont rapporté une explosion dans une mosquée du district d'Imam Sahib de la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Certaines sources d'information ont rapporté que 60 fidèles étaient tombés en martyr et que 30 autres avaient été blessés dans l'attaque terroriste. L'explosion est survenue un jour après une attaque sanglante contre les fidèles de la mosquée Sehdokan à Mazar-e-Sharif, la capitale de la province de Balkh. Plus de 120 personnes ont été tuées et blessées dans cette attaque que Daesh a revendiquée. Le Hezbollah libanais a condamné ces attentats. L'insistance des groupes terroristes Takfiri à combattre ces meurtres barbares exige que les mouvements islamiques et les autorités religieuses condamnent cette idée fausse et poursuivent ces groupes terroristes pour empêcher leurs crimes, indique son communiqué. Le Hezbollah a appelé les autorités afghanes à rester fermes contre ces gangs criminels, à soutenir les citoyens et à prendre des mesures strictes pour prévenir des incidents similaires. Les médias palestiniens ont rapporté ce vendredi matin 22 avril que l'armée du régime sioniste avait affronté à plusieurs reprises les Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa. Selon les sources d'information, les forces de Tel Aviv ont tiré des balles en caoutchouc sur les fidèles palestiniens à l'intérieur de la mosquée Sainte-Rotz. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé dans un communiqué que 27 Palestiniens ont été blessés, dont 2 sont dans un état grave et 11 autres ont été transférés à l'hôpital. Cependant, les médecins et les secouristes déployés dans la mosquée Al-Aqsa ont déclaré que 43 Palestiniens avaient été blessés. Les forces sionistes ont fermé toutes les portes d'entrée de la mosquée, ne permettant pas aux fidèles d'y entrer. Après que des bombes sonores et des balles en caoutchouc ont été tirées sur les Palestiniens, les gens présents sur place ont riposté en lançant des pierres. Après la prière du vendredi, la mosquée Al-Aqsa a été le théâtre d'un rassemblement de dizaines de milliers de Palestiniens scandant des slogans contre l'occupation sioniste. Selon les chiffres du Bureau des Affaires pieuses de Palestine, quelques 150 000 Palestiniens de diverses régions, dont la Cisjordanie et les territoires occupés en 1948, se sont rendus à la mosquée Al-Aqsa. En Jordanie voisine, des milliers d'habitants de la capitale Amman sont descendus dans la rue après la prière du vendredi, en scandant des slogans contre les crimes du régime sioniste. Les manifestants ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur du régime sioniste de Jordanie et l'annulation du traité de Wadi Araba signé en 1994 entre Tel Aviv et Amman. Le porte-parole des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Abu Mohammad, a confirmé que les opérations héroïques anti-sionistes se poursuivraient à l'intérieur des territoires occupés. Il a déclaré à Al-Mayadin: les factions de la résistance répondront aux attaques de l'occupation et ne resteront pas sans rien faire à Gaza. Israël paiera un lourd tribut à son arrogance, a martelé le porte-parole des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Le Niger autorise la présence des forces étrangères sur son territoire. Le Parlement nigérien a adopté vendredi 22 avril le projet de loi déjà approuvé le 4 mars dernier en Conseil des ministres. Le but est de renforcer la lutte contre les groupes terroristes au Niger et dans la région du Sahel, disent-ils. Les forces spéciales européennes, jusqu'alors basées au Mali, vont être redéployées sur le sol nigérien. C'est officiel, une partie des quelques 2400 soldats français de l'opération Barkhane et les 900 forces spéciales européennes Takuba qui doivent quitter le Mali vont être redéployées au Niger dans les prochains mois. En février, le président Mohamed Bazoum avait déjà donné son accord de principe pour ce redéploiement, mais il fallait obtenir l'accord du Parlement nigérien. Cette initiative n'était pas du goût de tous les élus. Ils sont nombreux à avoir pointé des zones d'ombre dans le texte proposé, demandant davantage d'informations concernant cet accord de coopération militaire passé entre le Niger et les forces étrangères. La constitution est mise de côté pour permettre au pouvoir de faire un passage en force, selon l'opposition. L'opposition et la société civile dénoncent l'influence croissante des forces étrangères et en particulier celle de la France. 6 personnes ont été tuées vendredi 22 avril à Mogadiscio dans un attentat suicide visant un restaurant en bord de plage qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus, ont indiqué des secours et la police. Les responsables n'ont pas été blessés dans l'explosion qui a provoqué un incendie à l'intérieur du bâtiment et suscité la panique parmi les clients. Il y a eu une explosion dans le restaurant provoquée sans doute par un kamikaze, mais nous n'en savons pas encore la raison, a déclaré un membre de la police, Mohamed Ali. Le chef de la police était dans le restaurant lorsque l'explosion s'est produite, mais il est sain et sauf, de même que plusieurs élus qui étaient présents, a-t-il dit. Selon le directeur du service d'ambulance, 6 personnes ont été tuées et 7 autres ont été blessées dans l'explosion. L'explosion a été suivie de coups de feu sporadiques, disent les témoins oculaires. Cette explosion intervient quelques jours après une attaque au mortier qu'a visé lundi le Parlement somalien, revendiqué par les extrémistes Shebab. Ces tirs de mortier ont visé le Parlement au moment où les députés se réunissaient dans le cadre d'un processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau président. Plusieurs personnes ont été blessées, mais aucun élu n'a été touché par les éclats d'obus qui ont atterri dans l'enceinte fortifiée de l'aéroport près du Parlement dans la capitale Mogadiscio. Le 24 mars, une attaque sur l'aéroport de Mogadiscio, lieu le plus sécurisé du pays, a fait 3 morts et dans le centre du pays, 48 personnes ont péri dans un double attentat. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Ben Salman, liquidateur du pétrodollar, basculeur du jeu. Alors que les États-Unis et leurs alliés s'unissent contre l'opération russe en Ukraine, l'Arabie saoudite se range du côté de la Russie. En ne condamnant pas publiquement la guerre et en réitérant son engagement envers l'accord OPEP+, le gouvernement saoudien a révélé des fissures dans son partenariat de longue date avec les États-Unis. Malgré les supplications pour augmenter la production de pétrole, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman aurait refusé de parler avec le président américain Joe Biden une semaine après avoir parlé avec le président russe Vladimir Poutine. En refusant de compenser le pétrole russe, le prince héritier facilite l'opération de Poutine en lui permettant de militariser l'énergie face aux sanctions imposées par l'Occident et de tenir les pays européens dépendants de l'énergie en otage du pétrole et du gaz russe, selon des sources d'information américaines. La réticence saoudienne à augmenter la production de pétrole en réponse à la demande de Biden représente le dernier signe d'un changement de loyauté, ont estimé des médias US. Sur le même volet, certains médias américano-saoudiens ont évoqué des efforts de la Maison-Blanche de nommer l'autre fils du roi Salman, Khalid bin Salman, pour succéder à Mohammed bin Salman comme prince héritier saoudien pour cette simple raison que les États-Unis sont en colère contre MBS qui a commandité l'assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi et déclenché la guerre au Yémen. La relation des pays du monde avec le régime sioniste est un facteur important qui détermine la nature de la relation entre les États-Unis avec ces États, en particulier avec ceux du Moyen-Orient. Dans ce contexte, si ces pays entretiennent de bonnes relations avec Israël, les États-Unis établiront des meilleures relations avec eux, même s'ils sont dirigés par les gouvernements les plus tribaux, réactionnaires et autoritaires. Et si ces pays s'opposent à Israël, ils seront la cible des attaques des États-Unis, même s'ils sont dirigés par les gouvernements les plus démocratiques. Ce qui compte pour les États-Unis, ce sont les intérêts d'Israël et des valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression ne valent rien pour Washington. MBS le sait bien. Il a donc été le parrain de la normalisation entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et même le Soudan avec Israël. En effet, durant son règne, l'Arabie saoudite avait noué des relations plus que normales avec Israël, mais en coulisses. Et la coordination sécuritaire en atteste. Les manœuvres militaires auxquelles les deux parties participent, l'échange de visites entre les hauts responsables saoudiens et israéliens, et les avions civils et militaires israéliens qui sillonnent l'espace aérien saoudien en toute sécurité viennent détailler ces affirmations. L'Arabie saoudite ne peut en aucun cas devenir indépendante des États-Unis, tout comme les États-Unis qui ne peuvent pas renoncer à un pays qui leur offre les clés de son trésor et consolide les bases du régime sioniste sur l'échiquier régional. Les experts estiment que les efforts du prince héritier saoudien pour tenir tête aux États-Unis visent en effet à se présenter comme une figure puissante pour remplacer son père, le roi Salman.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Ces derniers jours, la Turquie a lancé des frappes aériennes et terrestres contre le nord de l'Irak pour lutter contre le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. L'Irak a convoqué l'ambassadeur turc à Bagdad pour protester contre cette offensive le ministère irakien des Affaires étrangères a souligné que cette agression était une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Irak. Et cette offensive intervient au moment où, selon de nombreuses sources d'informations, la Turquie cherchera à établir des bases militaires permanentes dans le nord de l'Irak. Les États-Unis aussi soutiennent en effet cette démarche de la Turquie pour sécuriser en quelque sorte les gisements de pétrole et de gaz dans le nord de l'Irak. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser en effet les principaux enjeux de la récente opération militaire turque dans le nord de l'Irak cet accord secret, en quelque sorte, conclu dans le nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan, où les sociétés pétrolières proches d'Israël sont également présentes, et au moment où, en effet, en raison de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux sont confrontés à une grave pénurie de sources énergétiques. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À mesure que le temps passe, l'incursion illégale que mène depuis 48 heures l'armée turque par voie terrestre et aérienne contre Erbil, et ce juste après que Barzani Junior eut rencontré Erdogan, sous prétexte d'avoir à combattre ensemble le PKK, laisse apparaître ses vrais objectifs. Au fait, que fait-il Ankara, au nord de l'Irak ? Le mouvement de la résistance irakienne Al-Nujaba lève un coin de voile sur un accord secret conclu lors de la visite de Barzani à Ankara. L'agression et les attaques de la Turquie contre la souveraineté irakienne sont fondées sur un accord entre Erbil et Ankara, a tweeté Firas Al-Yasser, membre du mouvement de résistance irakien Al-Nujaba. Il a également révélé qu'en vertu de cet accord, la Turquie est autorisée à s'infiltrer dans le nord de l'Irak pour contrer le parti des travailleurs du Kurdistan, mais qu'elle s'était engagée à transporter le gaz du Kurdistan irakien vers les marchés européens. Le responsable irakien a en outre noté que le volume des exportations de gaz de la région du Kurdistan s'élevait à plus de 500 millions de mètres cubes et que sa valeur équivalait à 24 milliards de dollars par an. Le président de la région autonome du Kurdistan d'Irak, Masrour Bazrani, a annoncé en mars que la région kurde pourrait répondre à une partie des besoins énergétiques de l'Europe. Il a souligné lors de la conférence sur l'énergie de Dubaï que le Kurdistan irakien sera bientôt une source importante d'approvisionnement en énergie et jouera un rôle important dans un avenir proche pour répondre à la demande énergétique mondiale et aux exportations de gaz vers d'autres régions d'Irak. La Turquie et l'Europe, il y a donc un aspect éminemment anti-russe dans cette incursion. Mais il y a plus. La Cour suprême fédérale irakienne à Bagdad a récemment rendu deux importants verdicts judiciaires comme quoi Erbil ne peut disposer de ses recettes pétrolières. Le ministère irakien du pétrole a d'ailleurs proposé, la semaine dernière, la création d'une compagnie pétrolière nationale du Kurdistan sous le contrôle du gouvernement fédéral du sud de l'Irak, l'objectif étant de mettre fin à la domination du Kurdistan sur le pétrole et le gaz de la région dont il dispose trop librement. Mais n'est-ce pas que la Turquie fait tout ceci comme elle était appelée au secours par une partie agissant dans l'ombre? Le sultan sert-il de bouclier aux intérêts cachés d'Israël dans le nord de l'Irak, intérêts vieux de 20 ans, et que l'Iran et la résistance irakienne ont mis au défi, en s'en prenant tour à tour à un centre du Mossad à Erbil et une raffinerie travaillant pour le compte de Tel Aviv? Mais Erdogan, sait-il qu'à force de jouer avec le feu, on finit par brûler les doigts? La dernière fois que la Turquie atlantiste a tenu tête à la résistance, c'était à Sarakip, dans le nord de la Syrie. Elle a perdu la bataille en 3 heures face aux unités Radwan du Hezbollah.
Retour au plateau de l'émission du débat. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Alsace avec Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Et depuis Paris avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe, bonjour à vos invités, à votre invité, Maître Chamy, et à tous les téléspectateurs.
Madame Idani, alors,
l'invitation.
Je vous en prie, merci, merci à vous.
Ouais.
Madame Idani, alors, la récente révélation selon laquelle un accord secret aurait été conclu entre Ankara et Erbil lors de la récente visite de Massoud Barzani à Ankara. Alors, on dit long justement sur cette opération de la Turquie dans le nord de l'Irak. Alors, la question qui se pose, est-ce que cette opération, cette incursion est fondée sur cet accord secret et dans un terme, dans un sens plus général, dans le contexte actuel, dans l'état actuel des choses, dans le contexte des évolutions régionales, que cherche Ankara via cette incursion dans le nord de l'Irak?
Alors, en fait, ces incursions d'Ankara en Irak ne sont pas la première. Ce n'est pas la première fois qu'Ankara a mené une opération militaire au nord de l'Irak et a tenté de contrôler des régions de l'Irak. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la révélation de cet accord entre la Turquie et Erbil pour l'exploitation et le pompage et le vol du pétrole irakien, qui est une ressource nationale qui appartient au peuple irakien et qui essaye, l'État irakien essaye de contrôler donc Erbil. Depuis la création d'Erbil, rappelons-le quand même, qui a été créé par la fameuse constitution Bremer qui donne aussi une certaine autonomie à Erbil. Depuis le début, le grand débat entre Barzani et l'État irakien se situe sur l'utilisation du pétrole. Le pétrole irakien est une denrée nationale irakienne qui doit être redonnée et à l'État irakien et utilisé pour l'ensemble du peuple irakien. Or là, Erbil, qui est, disons-le aussi, sont en relation très privilégiée avec l'État d'Israël, d'où aussi la présence d'une base israélienne du Mossad à Erbil, qui a été vraiment, qui a été victorieusement, je dirais, bombardé par le Hashd al-Sha'bi et par les forces populaires irakiennes. Il faudra aussi, donc tout ça, ça va ensemble. Aussi, je voudrais dire, ce n'est pas étranger non plus au vol et du pétrole syrien, puisque ça, c'est aussi aux frontières nord-est de la Syrie. Le pétrole syrien est systématiquement pillé par les Américains et transite via justement Erbil vers la Turquie et qui va en Israël. D'ailleurs, même dans les années 2015, hein, 2016, hein, des satellites, des images satellites russes ont montré clairement le vol de ces ressources et puis le transit de l'ensemble des citernes qui pillent les ressources pétrolières par la Turquie. Et après, il y a eu des révélations comme quoi c'était le fils d'Erdogan, Bilal Erdogan, qui est de mèche aussi avec des compagnies aussi bien européennes que israéliennes, que le pétrole syrien, comme le pétrole irakien, sont envoyés à très bas prix donc à Israël et aux pays européens, qui sont complices aussi et parties prenantes et partenaires dans l'agression contre la Syrie et contre l'Irak sous le vocable sous le vocable de la coalition internationale qui prétend lutter contre le terrorisme et qui pille les deux pays, les ressources des deux pays. Merci. L'Irak. Merci. Et la Syrie.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Madame Midani. On va tout de suite rejoindre à Alsace Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie sert d'une manière ou d'une autre les intérêts d'Israël dans la région? En d'autres termes, est-ce que la Turquie, via sa récente incursion, cherche à sauver le réseau de trafic de pétrole syro-irakien vers Israël?
D'abord, il y a une chose qu'il faut rappeler, Erdogan ne sert que Erdogan. Et la Turquie actuellement sert d'abord ses propres intérêts. Et la personnalité complexe de ce président lui permet d'être, j'ai envie de dire, le personnage le plus opportuniste, pour ne pas dire le plus machiavélique, de toute la région. Par conséquent, il peut être ami avec Poutine, il peut être ami avec les Américains, il peut se rapprocher des Occidentaux, mais en même temps essayer de se rapprocher de l'Iran. Il est toujours dans cette espèce de grand écart pour essayer de tirer profit des situations qui paraissent contradictoires. Et à ce moment-là, lui, il essaye de se placer comme un vendeur, si vous voulez, qui essaie de placer ses produits. Et à chaque fois, il essaye de placer un produit chez l'un et un produit chez l'autre. Et à partir de là, aujourd'hui, il est effectivement dans ce jeu-là où il essaie de tirer profit comme il l'a fait au début de la guerre en Syrie, c'est-à-dire en faisant passer les milices armées avec, bien entendu, leur armement pour détruire les deux pays, la Syrie et l'Irak. Et maintenant, il veut passer à autre chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre économique, c'est-à-dire essayer de piller ou continuer à poursuivre le pillage de ces pays-là. Le pillage de ces pays dans ces régions-là, vous avez les Américains qui pillent le pétrole syrien et les citernes continuent d'y aller. Il y a même apparemment une installation de raffinerie qui se met en place pour justement qu'on récupère, au lieu de récupérer du pétrole, qu'on récupère du pétrole, des produits déjà raffinés. Et par rapport à l'Irak, évidemment, il fallait un prétexte. Alors qu'au début, le prétexte, c'était la lutte contre Daesh. Les Turcs ont avancé leurs troupes et ils ont occupé une partie du territoire irakien. Les Irakiens, bien entendu, ont commencé à montrer les dents à travers l'axe de la résistance, en tout cas les forces irakiennes qui ont contribué, pour ne pas dire qui ont eu la part belle, dans la libération de leur pays des milices de Daesh et leurs alliés. Et effectivement, ce sont eux qui ont permis à ce que l'autorité irakienne soit retrouvée sur l'essentiel du territoire irakien. Il restait les territoires qui étaient occupés tantôt par les Américains à certains endroits ou bien par les Turcs à d'autres endroits. C'est la raison pour laquelle il y a eu une déclaration claire consistant à dire qu'il fallait se débarrasser de tous les étrangers. Les Turcs devaient en tirer les conséquences. La question qui se posait, c'est comment revenir ou comment avancer davantage en territoire irakien. Et à ce moment-là, il y a eu l'idée, tiens, se débarrasser du PKK. Et en même temps, qui aide à cette opération-là ? Barzani, c'est-à-dire le Kurde lui-même, qui a failli lui-même chuter par Daesh parce que Daesh ne faisait pas de distinguo. Et il a fallu l'intervention du général Soleimani, j'ai envie de dire feu général Soleimani, pour sauver la région kurde. J'ai presque envie de dire qu'il n'aurait pas dû le faire parce que la question qui était posée, est-ce qu'on liquide deux ennemis en même temps ou bien on se sert de l'un contre l'autre? Et là, on a privilégié le local par rapport à l'extérieur. Et la démarche était intéressante, sauf qu'il fallait de la reconnaissance du côté de Barzani. Barzani a toujours été comme Erdogan, c'est pour ça qu'ils peuvent s'entendre. Il est également l'homme opportuniste et machiavélique de la région. Et là, aujourd'hui, vous avez deux opportunistes qui collaborent, qui coopèrent pour assurer d'abord leurs propres intérêts, c'est-à-dire vendre le pétrole qui se trouve dans cette zone-là. Aujourd'hui, peut-être aux Israéliens, mais demain, ça peut être aux Français ou à d'autres. La question n'est pas de savoir qui sont les clients de ce pétrole, parce qu'il n'est pas vendu gratuitement, sachez-le, mais la question qui est de savoir quelles poches vont être remplies. Au lieu de remplir les caisses de l'État irakien, on remplit les caisses de Barzani et compagnie, et par la même occasion, les caisses de la famille Erdogan, et derrière eux, d'autres cartels, si j'ose dire, avec la complicité des Américains et avec la facilitation des Israéliens. Nous sommes donc dans cette configuration-là qui paraît complexe, mais en réalité, quand on déroule, si j'ose dire, la carte, on comprend davantage ce qui se passe.
Merci infiniment, Maître Chami, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Ideni, alors, selon Barzani, alors le Kurdistan, dans un proche avenir, sera une importante source d'approvisionnement en énergie et pourrait répondre en effet à la demande énergétique mondiale, aux exportations de gaz vers d'autres pays, vers l'Europe, comme l'a souligné Maître Chami. Mais dans tout cela, il paraît qu'il y a en effet un aspect anti-russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Qu'en pensez-vous, Madame Ideni?
Tout à fait. Justement, maintenant, les États-Unis font pression effectivement contre l'Europe déjà pour qu'elle coupe les liens et toutes les relations avec la Russie pour imposer des soi-disant sanctions contre la Russie, c'est-à-dire les États-Unis veulent obliger l'Europe à arrêter toute importation de sources d'énergie russes qui sont à un certain prix, à bas prix, je dirais, ou un prix du moins intéressant pour les Européens. Elles voulaient leur vendre les ressources américaines à un prix très élevé, chose que les Européens renâclent à accepter. Donc, les États-Unis font pression sur les autres pays pour producteurs de pétrole, pour approvisionner l'Europe et permettre donc à l'Europe de se ranger au côté américain contre la Russie en Ukraine. Ça, c'est un point. Donc, ils essayent donc de pousser à un pillage plus systématique du pétrole irakien, un pillage plus systématique du pétrole syrien. De plus, donc, et puis la Turquie joue tout à fait ce jeu-là comme étant l'agent mercenaire, l'agent proxy des États-Unis pour cela. En fait, ça ouvre des marchés et puis ça permet juste aux Turcs de profiter du pillage de ces ressources. Je voudrais rappeler aussi que les Américains ont fait pression contre le Pakistan et que le Pakistan avait refusé. On a vu que très vite après, ils ont aussi fomenté un coup d'État contre le président Imran Khan et l'empêcher de présider le Pakistan. Donc, ils ont fait pression contre l'Algérie qui continue de refuser effectivement d'augmenter sa production. Et de même, d'ailleurs, l'Arabie saoudite et les Émirats ont refusé d'augmenter leur production pour ne pas justement nuire à la Russie dans ce contexte. D'ailleurs, je salue aussi la position iranienne par rapport à ces pressions américaines pour isoler la Russie de ses amis. Et en fait, donc tout ceci se situe effectivement dans le contexte de guerre contre la Russie via l'Ukraine. Et puis aujourd'hui, on voit que aussi, cette guerre s'étend au pôle Nord et à tous les pays du pôle Nord où il y a une volonté aussi d'intégrer la Suède, le Danemark, etc. dans l'OTAN et en fait donc nuire à la Russie de ce côté-là.
Merci, merci encore. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, est pour vous ce jeu anti-russe de la Turquie? Est-ce qu'il s'explique exclusivement par les velléités opportunistes d'Erdogan, de la Turquie d'Erdogan, ou encore il faut également tenir compte des pressions des États-Unis et de l'OTAN?
Toujours, puisque vous ne pouvez pas faire ce type de jeu-là sans vos interlocuteurs. L'interlocuteur privilégié, c'est Erdogan. Dire que Erdogan est en train de jouer ses dernières cartes parce que, j'ai eu l'occasion de le dire, il a trop joué avec le feu et aujourd'hui, évidemment, il avance ses pions pour satisfaire les Américains qui ont été particulièrement mécontents de l'acquisition par la Turquie des missiles S-400. Là, aujourd'hui, il essaie de rendre un petit peu quelques services aux Américains tout en s'appropriant un certain nombre d'avantages. Mais selon les sources, on va dire très bien renseignées, non seulement Erdogan est en train de jouer ses dernières cartes, il serait même en train de jouer ses derniers jours. On parle même d'événements importants en Turquie avant la fin de l'année. Vrai ou faux, est-ce que c'est de l'intox? Nous n'en saurons rien avant la fin de l'année, mais vraisemblablement, il se passe des choses en Turquie. La montée d'ailleurs de l'opposition à Erdogan est remarquable et aujourd'hui on met de plus en plus en avant l'opposition turque à Erdogan, ce qui démontre quand même que dans ce pays il y a des choses qui se passent. Nous verrons d'ici quelques mois, est-ce que des modifications, sinon des changements radicaux se passent, mais il semblerait que Erdogan demande même des garanties, c'est-à-dire s'il quittait le pouvoir ou il est obligé de quitter le pouvoir, qu'il ne soit pas poursuivi devant la justice turque. Ça fait partie quand même des choses qui se disent. Nous verrons plus tard comment ça va se passer et évidemment les choses ne sont pas aussi simples en Turquie que l'on veuille le dire. Aujourd'hui, il a besoin d'argent. Est-ce qu'il croit avoir trouvé un droit de péage, si j'ose dire, à ce pétrole-là pour améliorer ses rentes? Probablement, mais ce n'est pas éternel et ce n'est pas indéfini puisque l'Irak ne peut pas rester, si j'ose dire, silencieuse par rapport à ce qui se passe. Et il y a un autre paramètre que tous les acteurs négligent, c'est la résistance irakienne, c'est-à-dire à un moment donné, la résistance irakienne prendra ses responsabilités et à ce moment-là, l'affrontement qui était envisagé il y a quelques mois entre la résistance irakienne et les Kurdes, c'est-à-dire les Kurdes de Barzani pour être précis, aura probablement lieu. La question qui se pose, est-ce que Barzani continue de jouer vraiment comme un imbécile ou bien il comprend que finalement il faudrait peut-être qu'il fasse marche arrière et qu'il rentre dans le jeu irako-irakien. Là aujourd'hui, il joue également ces derniers jours parce qu'à un moment donné, ces choses auront une fin puisque le jeu aujourd'hui dans cette zone-là devient de plus en plus dangereuse et peut devenir une espèce d'étincelle qui éclaboussera pas mal d'acteurs sur zone, dont la Turquie, en tout cas son président, et dont le Kurdistan, puisque le Kurdistan ne peut pas être indéfiniment hors la loi irakienne. L'Irak accepte le principe dans l'absolu qu'il y ait une culture kurde, qu'il y ait une autonomie administrative kurde, mais qu'il y ait une sorte de scission kurde par rapport à l'entité irakienne. Cela ne sera accepté par personne, puisque même d'autres pays pourraient se sentir agressés, et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle une sorte d'union des États lésés, ou en tout cas agressés par cette émanation kurde. Et bien entendu, leur réponse ne sera pas très simple à supporter par le Kurdistan et plus particulièrement par Barzani.
Maître André Chamy, juriste international, sociologue depuis Alsace. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous et bienvenue au Focus de cette semaine. L'Iran ne renoncera pas à venger le martyr du général Soleimani, assure le CGRI. Les gardiens de la révolution islamique ont affirmé jeudi 21 avril qu'ils ne renonceraient pas à venger le martyr du général Qassem Soleimani, assassiné dans un raid américain en 2020 contre une levée des sanctions par les États-Unis. Téhéran est engagé depuis un an dans des négociations avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine directement et les États-Unis indirectement, pour relancer un accord conclu en 2015 sur son programme nucléaire. Les négociations à Vienne visent à ramener les États-Unis à cet accord dont ils se sont retirés en 2018, notamment par la levée des sanctions contre l'Iran et la garantie du plein respect par Téhéran de ses engagements. Les ennemis nous ont demandé à plusieurs fois de renoncer à venger le sang de Qassem Soleimani contre la levée de certaines sanctions, mais c'est une fantaisie, a déclaré le commandant de la marine des gardiens de la révolution islamique, l'amiral Alireza Tanksiri. Sa vengeance est inévitable, a-t-il assuré, et de souligner. C'est l'Iran qui déterminera l'heure et le lieu de la vengeance. Le leader de la révolution islamique a souligné la nécessité de la vengeance. Et donc, cette question est non négociable, a insisté l'amiral Tanksiri. Commandant en chef de la force Al-Rots du CGRI, chargé des opérations extérieures, le général Qassem Soleimani a été assassiné le 3 janvier 2020 dans un raid américain près de l'aéroport de Bagdad. L'ancien président américain Donald Trump avait ordonné son assassinat. Après son assassinat, l'Iran avait tiré quelques jours plus tard des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains, faisant des blessés. Nous avons souligné à plusieurs reprises aux Américains que l'Iran n'est pas disposé à abandonner ses lignes rouges, a par ailleurs affirmé jeudi le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian, sans donner plus de détails. Le Hezbollah condamne les attentats de Mazar-e-Sharif. Le Hezbollah dénonce fermement les explosions terroristes odieuses qui ont visé les fidèles et les civils innocents dans la ville de Mazar-e-Sharif en Afghanistan, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, indique le communiqué qu'a publié le Hezbollah libanais en condamnant les attentats de Mazar-e-Sharif. Ces explosions sont une violation du caractère sacré du mois béni de Ramadan et des mosquées et une insistance haineuse à tuer des personnes innocentes, ce qui reflète la barbarie et la brutalité de ces meurtriers dépourvus de toutes les valeurs religieuses, morales et humaines. La persistance du groupe terroriste Wahhabite Daesh à perpétrer des massacres odieux nécessite une action immédiate de la part des gouvernements islamiques et des références religieuses influentes en condamnant cette pensée erronée, en poursuivant ces cellules terroristes et en mettant fin à leur criminalité. Elle exige également des autorités afghanes qu'elle affronte fermement ces groupes criminels, assure la protection des citoyens et prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des incidents similaires se reproduisent. Nous demandons à Dieu d'avoir pitié des martyrs, d'accorder un prompt rétablissement aux blessés et d'accorder paix et sécurité au peuple afghan. Les grands défis qui attendent le prochain président français. Inflation, guerre en Ukraine, fracture sociale. Le prochain président devra dès son arrivée à l'Élysée faire face à plusieurs défis aux conséquences durables. Économie. Le prochain président hérite d'une situation économique compliquée, avec une croissance amputée par la guerre en Ukraine et une inflation en embuscade. Côté croissance, on risque de perdre cette année 2 points de croissance par rapport aux 4% qu'on pouvait escompter, estime Patrick Artu, chef économiste de Natixis. Mais le plus gros risque pour l'économie à court terme, c'est l'inflation, assure Emmanuel Gessois, économiste à l'Institut Rexcott. De 4,5% en mars, elle pourrait s'accélérer avec les pénuries liées au conflit et affecter directement le pouvoir d'achat des plus modestes. Les marges de manœuvre sont limitées alors que la crise sanitaire a creusé le déficit commercial, 6,5% du PIB fin 2021 et la dette, 112,9%. Cette dérive des finances publiques complique le financement des programmes. Cette dérive des finances publiques complique le financement des programmes des candidats, chiffrés à 50 milliards par Emmanuel Macron et 68 milliards par Marine Le Pen. Surtout si la croissance est ralentie du fait d'une hausse des taux par la BCE. Le terrain économique et social s'annonce donc mouvant pour engager une éventuelle réforme des retraites, l'un des enjeux des années à venir. Et la fête du travail du 1er mai s'annonce déjà agitée, les responsables de la sécurité anticipant une conjonction des mécontentements. Les premières annonces du candidat élu seront décisives, ajoute une source policière. Fracture. Dimanche soir, nous verrons les résultats avec des fractures très marquées selon la distance de résidence aux grandes métropoles, le niveau d'études, mais aussi le clivage générationnel, estimé jeudi sur France Inter, Jérôme Fourquet. Auteur d'une étude pour la Fondation Jean Jaurès et Le Figaro qui voit un vrai clivage de classe entre une France d'en haut et une autre d'en bas. La crise du Covid a mis en avant ces lignes de faille économique, sanitaire, territoriale, contribuant à un malaise qui avait déjà explosé lors de la crise des Gilets jaunes. Une élection de Marine Le Pen pourrait provoquer des tensions ou des manifestations immédiates. Emmanuel Macron suscite aussi une vive hostilité dans une partie de l'électorat, ce qui affaiblirait l'adhésion à sa politique. Ukraine. Le quinquennat débute alors que la guerre russe occidentale en Ukraine s'installe dans la durée. Avec 2 mois encore de présidence française du Conseil de l'Union européenne, le prochain chef de l'État devra préserver l'unité affichée par les 27 depuis le début de l'opération militaire russe, mise à rude épreuve par la lancinante question des achats de gaz et de pétrole russe. La concertation avec Berlin et Washington sera primordiale, alors que les deux candidats en lice n'ont pas la même conception des relations avec le Kremlin. Le nom du prochain président affectera aussi la position de la France sur l'OTAN, qu'Emmanuel Macron soutient alors que Marine Le Pen a dénoncé son élargissement à l'Est. Et enfin, climat. Alors que canicules et inondations se multiplient sous l'effet du réchauffement de la planète, un des défis sera réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990, comme la France s'y est engagée dans le cadre des accords de Paris. Cela passe par une décarbonation des transports, de l'agriculture, de l'énergie, d'autant que l'engagement devrait être relevé dans le cadre des nouveaux objectifs climatiques de l'Union européenne. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU publié la semaine dernière, le monde a 3 ans pour faire plafonner les émissions de gaz à effet de serre et espérer un avenir vivable. L'armée russe vise le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine. La Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass pour disposer d'un pont terrestre vers la Crimée annexée par Moscou, a indiqué vendredi 22 avril un général et haut responsable de l'armée russe. Depuis le début de la deuxième phase de l'opération spéciale, phase qui a commencé il y a 2 jours, l'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Cela permettra d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée, ainsi que de peser sur des infrastructures vitales de l'économie ukrainienne, a déclaré le général Roustan Minekayev, commandant adjoint des forces du district militaire du centre de la Russie. Le jeudi 21 avril, Moscou a pris le contrôle de la ville ukrainienne de Mariupol, ordonnant d'assiéger les derniers combattants ukrainiens. La fin du travail de libération de Mariupol, c'est un succès, a dit Vladimir Poutine au ministre de la Défense Sergueï Shoigu, après lui avoir signifié qu'un assaut du site d'Azovstal n'était pas approprié et qu'il fallait assiéger la zone de telle manière à ce que pas une seule mouche ne passe. Plus tôt dans la journée, Sergueï Shoigu avait lui déclaré que tout Mariupol est sous contrôle russe, à l'exception du site industriel. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.